La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je suis le pasteur David Tripet de l'église La Maison et de l'Assemblée chrétienne de Toulouse. C'est une joie pour moi de vous annoncer la parole du jour. Et nous allons ensemble étudier Luc 15 avec cette parabole bien connue du fils prodigue. On pourrait même parler peut-être même de la parabole du père et de ses deux fils. Nous lisons donc Luc 15, les versets 11 à 32, dans la version Parole de vie. Jésus raconte donc cette histoire. Un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays. Et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Et cet homme l'envoie dans les champs garder des cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Et il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part donc pour retourner chez son père. Le fils est encore loin. Mais son père le voit. Et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et il l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement. Habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ainsi, il commence à faire la fête. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton père qui est arrivé, ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, « depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui ?» Le père lui répond, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. » Amen. Dans cette histoire, il y a trois personnages clés. Il y a tout un contexte que Jésus met en scène, raconte pour nous mettre en face de notre réalité aux uns comme aux autres. D'abord, regardons le fils cadet. Le fils cadet force son père à partager l'héritage entre ses deux enfants. Il demande l'héritage à son père. Et ce « donne-moi » annonce sa propre chute personnelle. Cette rébellion, cette indépendance qui se manifeste avec force et qui force le père à accueillir l'indépendance de son fils, cette rébellion même de son fils cadet, et ça force même le grand frère pour le coup. Cela amorce donc une lente mais inexorable marche vers la perdition. Et c'est en descendant qu'on se rend bien compte de notre éloignement du père. Il décide donc de se détacher de son père. Partir, enfin libre. Je m'éclate, je profite de la vie, je suis libre. Plus besoin de me dire qu'est-ce que je dois faire. On a certainement vécu ça dans notre jeunesse ou alors entendu nos enfants le dire. Ça me fait penser à un ami, quand j'étais jeune, qui était chrétien et qui a décidé de vivre sa vie. Et alors que je vivais en Suisse, il a décidé d'être libre et de faire ce qu'il voulait. Puis petit à petit, il a commencé à fréquenter de plus en plus d'amis qui avaient d'autres valeurs que les valeurs chrétiennes. Et il s'est mis à consommer différents produits, puis des drogues douces, puis gentiment tester les drogues plus dures. Puis un jour, je l'ai croisé dans la rue et je lui dis, mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit la parole de Dieu. Puis il me dit, oui, mais justement, je suis libre, je fais ce que je veux. Et je lui dis, oui, mais est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu as l'Esprit du Seigneur en toi? Et c'était toute une longue discussion qui m'a forcé et encouragé à prier pour lui. Et pendant des mois, j'ai prié pour lui, vraiment, je l'ai porté dans ma prière. Et suite à différentes circonstances où je n'ai pas le temps de vous les raconter là, un soir, au milieu même une nuit, il me téléphone au milieu de la nuit et il m'appelle, « David, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin qu'on prie ensemble. J'ai besoin de te voir. » Et le lendemain matin, il est venu avec le premier train chez moi. On a prié ensemble et c'était le début pour lui d'un retour à Christ. Et aujourd'hui, il est totalement délivré, transformé. Il est lui-même pasteur, il a une magnifique famille parce qu'il a découvert la vraie liberté. Mais il était comme ce fils cadet. Il s'est éloigné, il voulait faire tout ce qu'il voulait, être libre. Être libre. Et là, le fils, il va tout dépenser. Tout l'argent qu'il a reçu, tout l'héritage qu'il a reçu, c'est comme si nous, toutes les bénédictions qu'on reçoit de Dieu, ça parle aussi de cela. Tout est dépensé à vitesse grand V. Je profite de la vie et je perds toutes les bénédictions que je peux engranger. Cet entêtement l'éloigne complètement, non seulement de Dieu le Père ou du Père dans l'histoire, mais de sa propre destinée, de sa propre identité à lui-même en fait. Tellement entêté, on mange tout, sauf ce que Dieu nous propose, et on commence à même manger nos propres bénédictions, j'ai envie de dire. Et puis on peut comprendre qu'il tisse aussi des amitiés avec d'autres personnes, qu'il éloigne encore plus de sa famille, de son père et de toutes ses bénédictions. Parfois, malheureusement, on tisse des amitiés parce qu'on était déçus des chrétiens. Déçus, comme lui, il a peut-être été déçu de la maison de son père, des employés de son père, de son frère, de sa famille. Et parfois, c'est vrai, l'église, la maison du père, nous déçoit. On est déçus des chrétiens. Et là encore, je vous demande pardon si c'est votre histoire, si c'est votre cas. En tant que pasteur, j'aimerais vous demander pardon pour toutes les blessures que vous avez pu recevoir de la part d'hommes d'église, mais de la part aussi de frères et sœurs en Christ qui n'ont pas su se positionner en tant que fils et filles de Dieu, mais qui se sont positionnés pleinement dans leur nature humaine et qui ont été peut-être blessants pour vous. Mais c'est vrai qu'on cherche des réponses à notre identité, on cherche des réponses au sens de la vie dans ce que le monde parfois propose, au lieu de revenir à la maison du Père. Et là, il y a chez le fils cadet, il y a souvent plein de blessures, un manque d'amour, un besoin d'identité, un besoin de prouver qui il est, un besoin d'appartenance, de valorisation, de faire partie d'un clan, de faire partie de la tribu comme les autres. Et c'est bien souvent ça qui nous éloigne de notre propre identité. Le besoin d'être comme tout le monde, mais en fait, ce tout le monde, c'est un monde qui court à sa perte. À tel point que le fils à vouloir manger avec les porcs. Manger, c'est une telle décadence complète qu'il est prêt à manger ce que les cochons mangent. Et qu'est-ce qu'on donne à manger aux cochons? Ben, c'est tout ce qu'on met à la poubelle normalement, au compost. Oui, même là, il n'a pas de quoi manger. Même là, il n'y a pas ce qu'il lui faut. Quelles sont tes nourritures? Qu'est-ce qui te nourrit? Quelles sont tes amitiés, tes influences autour de toi? Est-ce qu'elles sont bénissantes ou pas? Où en es-tu dans cette relation avec ce qui te nourrit? Où en es-tu dans cette relation avec la maison du Père? Il y a tellement de choses qui nous éloignent en réalité d'une relation avec Dieu le Père. Parfois, même bien souvent, c'est des blessures face à la relation avec notre propre Père, nos propres parents, ce que représente le Père, ou alors ce que représente l'Église, qui malheureusement n'a pas su être toujours bien bienveillante et bénissante. Parfois, il y a des blessures avec dans la vie qui font que c'est tellement ancré et marqué en nous que c'est ça qui nous conduit plus que le reste. Parfois aussi, il y a besoin de dire « Je veux savoir qui je suis au travers d'expériences dans la vie. » Et ça, ça peut être par... Moi, c'était mon cas, c'était la fête et l'alcool et toutes ces choses-là. C'est comme ça que j'ai cru être qui j'étais en faisant la fête et l'alcool quand j'étais jeune. Et c'est pas sous l'effet de l'alcool et dans la fête, en fait, en réalité, que j'ai su vraiment qui j'étais. De plus en plus de jeunes expérimentent des relations sexuelles avec des différents conjoints. Ça change régulièrement. Et même, on peut changer de partenaire, d'identité sexuelle même de son partenaire. De plus en plus. Et en fait, cette recherche constante de relations sexuelles dit aussi derrière cela, j'ai besoin de savoir qui je suis. C'est pour moi qui le dis, c'est même les psychologues et les sexologues aussi. Donc, le fils rentre dans une réflexion intérieure. Il dit, je suis si bas maintenant, je ferais bien de revenir voir mes parents, revenir à la maison. Et c'est tellement fort parce que dans l'histoire, il dit, je vais faire ceci pour mon père. Je vais faire quelque chose pour mériter son amour. Je vais travailler pour lui, pour... comme ses ouvriers, pour mériter son amour. Il va même dire à son père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est violent en réalité. Lui qui a déjà coupé tous les liens, qui est parti de chez son père, qui a brisé le lien avec lui en fuyant, il vient vers son père et lui dit, je ne suis pas ton fils, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. C'est encore plus fort, encore plus violent. C'est comme s'il ne veut pas accepter réellement encore son identité de fils. Et il lui dit, traite-moi comme un de tes ouvriers, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mériter ton amour. Les ouvriers sont payés pour ce qu'ils sont. Ils doivent rapporter. Mais lui, en fils, il est aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il fait ou ce qu'il rapporte. Un fils est propriétaire et non l'esclave. Mais lui, il monnaie son retour. Il pense que c'est au prix de son labeur que son père va l'accepter. En fait, c'est une forme d'orgueil caché. J'aurais mérité ton pardon parce que j'ai fait plein de choses pour toi. J'ai produit quelque chose de bon. Et ainsi, je mérite d'être sauvé, je mérite d'être aimé. Mais mes amis, on ne monnaie pas notre place vers Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous accepte, qui vous accueille dans sa maison, si vous revenez vers lui d'un cœur repentant et que vous lui donnez votre vie. En fait, seul le péché fait de nous des esclaves, mais pas le Père. Jésus dit dans Jean 8 au verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Un beau parallèle avec cette parabole qu'on vient de lire. Si tu lui es fils, tu demeures dans la maison du Père. Paul écrira à l'épître aux Galates au chapitre 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, c'est-à-dire Jésus, qui crie « Papa, Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. C'est ça toute la bénédiction que Dieu nous donne. C'est qu'on n'est plus esclave, on n'est plus ouvrier, on n'a pas besoin de se battre et on n'appartient plus au principe de ce monde qui nous use et qui nous détruit. Mais lorsque tu choisis de venir vers Dieu le Père par Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous, qui a donné sa vie pour nous, lorsque tu choisis d'accueillir la puissance de la croix dans ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu et tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et tu deviens héritier, comme Christ, de tous les biens que Dieu le Père a pour nous en héritage. Et ce n'est pas que au ciel, c'est aussi ici sur terre qu'on peut être enfant de Dieu et s'emparer des bénédictions de Dieu. Accepter d'être le Fils, ce n'est pas gagner sa place, mais c'est en acceptant notre identité en Dieu que nous devenons fils. Le voyage du cadet commence par un meurtre symbolique, le rejet de l'amour du Père, et il finit par une mort intérieure pour accepter de revenir en tant que fils. Maintenant, regardons le Père. Le Père, lui, il accueille avec peine la demande du Fils, mais il s'est soumis et il va donc libérer l'héritage au début de l'histoire et envoyer son Fils. Par amour, il va le libérer et le laisser partir. Il ne va pas le retenir. Et au retour, lorsque le Fils arrive, dès que le Père voit, il ne va pas tranquillement vers lui, il ne va pas envoyer ses ouvriers. Non, le Père court vers son Fils. Il court vers lui, il va à sa rencontre. La passion est tellement forte du Père qu'il va se plier en quatre, qu'il va mettre tous ses ouvriers au travail pour le Fils qui revient, pour qu'il puisse l'habiller, qu'il puisse le mettre la plus belle des robes, qu'il puisse le chausser ses pieds. Et tout ça, toute une symbolique énorme en fait. Chacun des habits dans la culture juive représente quelque chose de très fort. J'aimerais juste m'appuyer sur la bague qui est non seulement un signe de richesse, mais aussi surtout une marque d'appartenance, comme le sceau, comme une alliance. C'est le symbole de l'acceptation qu'il revient dans la maison du Père, qu'il fait partie de la famille. Mais oui, le Père est ému de compassion. Il court se jeter au cou de son Fils et le couvre de baisers. Alors que certainement son Fils devait être sale, il devait puer, lui qui avait été au milieu des porcs et des cochons. Mais son Père est tellement dans l'amour et dans la joie qu'il ne regarde pas aux yeux, à ce que les yeux voient, mais il regarde au cœur. Tel Dieu le Père, qui regarde au cœur. Et le Père ordonne à la maison de faire la fête. On doit se réjouir, mes amis, quand quelqu'un revient à Christ, quand quelqu'un revient dans l'Église, quand quelqu'un revient à lui qui était perdu, réjouissons-nous. Si aujourd'hui, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas comme tout le monde, peut-être est rejeté, si peut-être vous avez quelqu'un qui n'est pas dans les standards chrétiens ou les standards de votre famille, mais qu'il revient à le cœur humble, alors accueillez-le avec l'amour du Père. Aimez-le. D'ailleurs, nous venons de dire au revoir au pape François, et c'est bien un héritage que nous laisse le pape François, d'aimer les pauvres et les orphelins, les rejetés, d'aimer les étrangers, d'aimer les réfugiés et de les accueillir et de les accepter. Ayons ce cœur-là, le cœur du Père, qui accueille celui qui est rejeté et qui le couvre de baisers et qui va tuer de vos gras et faire un grand festin parce que celui qui était perdu est retrouvé. Et puis, le troisième personnage est le fils aîné. le fils aîné qui, lui, a une toute autre attitude. Après tant d'années que je te sers, regarde tout ce que je fais, moi. Je mérite plus que quiconque. Je travaille tellement dur pour toi. Mais, pourtant, tu vas tuer le veau gras pour l'autre, ton fils. Tu n'as même pas dit pour mon frère. C'est comme si il l'a renié. C'est plus mon frère. Mais l'autre, ton fils, il le dénigre. Il renie son frère. Pourtant, le père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort encore, de nouveau, il sort de la maison à la rencontre du fils aîné. Ce fils qu'il n'a même pas voulu rentrer alors que c'est la fête pour tout le monde, tous ceux de la maison, les ouvriers comme les enfants. Mais le père sort à sa rencontre, encore une fois. Et c'est ce que le père fait toujours. Même quand on a un esprit un peu, permettez-moi de le dire, mais religieux, ou contrôlant, ou égoïste, et puis qu'on croit qu'on mérite plus que les autres. Mais le Père, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qui est ici est à toi. Mais nous, on croit qu'on le mérite encore parce qu'on travaille, on travaille comme le fils aîné. Il croit qu'il a besoin de le mériter. Mais Dieu, le Père, dit, tout ce qui est ici est à toi. Je ne t'empêche pas de faire la fête avec tes amis, de profiter de tout cela, parce que tout est à toi. Tu peux en profiter. Mes amis, pour conclure ce temps, j'ai envie de vous dire, l'amour du Père est pour chacun d'entre vous, que vous soyez fils aîné ou fils cadet, tout est pour vous. La maison du Père a une grande porte, grande ouverte, et cette porte, c'est Jésus qui est la porte. Et il vous dit, viens dans la maison, tout est à toi. Je dresse devant toi une grande table, viens manger de ma bénédiction et profiter de tout ce que j'ai pour toi.
J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit les sorts, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer. Océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour. faisant, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père.